Bonne journée sur France Inter, il est 13h. Le journal Julie Smul, bonjour.
Bonjour à tous. Les Gilets jaunes, acte 25 ce samedi. Alors que certains veulent reconquérir les ronds-points, d'autres prévoient de manifester une nouvelle fois. À La Roche-sur-Yon, c'est interdit. Aujourd'hui, toute la ville est barricadée. Décision du préfet de Vendée qu'on va entendre. Dans ce journal aussi, les européennes, 33 listes en compétition cette année en France, c'est un record. On partira en Thaïlande pour assister au couronnement du nouveau roi. En Libye aussi, reportage au milieu des manifestants réunis une nouvelle fois hier à Tripoli contre le maréchal Haftar. Et puis notre dossier ce midi autour des 48 heures de l'agriculture urbaine, une initiative de l'association La Sauge. Son président sera au téléphone avec nous dans un quart d'heure. C'est donc le 25e samedi de mobilisation des Gilets jaunes. Aujourd'hui, un mouvement qui semble s'essouffler un peu ces deux derniers week-ends. Combien seront-ils alors cet après-midi dans les rues de toute la France? Le point de ralliement en région, c'est La Roche-sur-Yon, la ville barricadée. Ce midi, décision des autorités, le préfet de Vendée, Benoît Brocard, est particulièrement inquiet.
Quand on voit la rhétorique, la symbolique utilisée sur les réseaux sociaux pour appeler à cette manifestation, quand je vois que les street medics sont mobilisés, on ne va pas nous faire croire qu'il va s'agir, comme les fois précédentes, d'une manifestation paisible. Je crois que tous les indicateurs sont au noir, si vous me permettez cette image. Donc je pense que chacun doit assumer ses responsabilités face à cette menace et ne pas essayer d'être dans l'évitement ou de se défiler. Bien évidemment, nous allons mobiliser tous les outils législatifs et procéduraux à notre disposition, puisque ne pas respecter une interdiction de manifester, se présenter cagoulé ou le visage masqué, ça peut avoir des conséquences au plan pénal en termes de peine de prison ou d'amende.
Le préfet de Vendée, Benoît Brocard, interrogé par nos confrères de France Bleu Loire-Océan, le préfet qui vient d'en parler, les stricts médics sont dans la rue aussi aujourd'hui. Ce sont ces secouristes ambulants déployés dans les manifestations pour aider les blessés. Ils viennent de toute la France. Ils se sont donné rendez-vous aujourd'hui au centre de la carte à Montluçon. Ils veulent dénoncer les violences policières en marge des cortèges. Tristan Barrault.
Alors qu'ils se veulent neutres, les street medics portent aussi bien secours au CRS qu'aux Gilets jaunes, ils l'assurent. Vanessa Assier est street medic, elle est l'une des organisatrices de la mobilisation à Montluçon d'aujourd'hui.
Que ce soit des manifestants, des simples citoyens qui passent et qui sortent d'un magasin qui se font gazer, jusqu'au CRS, il y a une vidéo qui tourne sur internet sur un CRS qui a été au sol, qui a été soigné par les street medics, c'était moi et mon collègue qui faisions les soins. Donc on garde cette neutralité-là, donc on supporte pas qu'on nous vise.
Exemple avec un samedi au cœur d'une manifestation Gilets jaunes à Paris.
On était en train de faire un soin sur une journaliste, on l'a écartée une première fois, donc un gros troupeau blanc. Les médicassistes ont bien stipulé qu'on était en soin. Deux secondes après, elle avait sa pompe cramée par des bombes de lacrymo, en plein soin. Elle s'est retrouvée avec brûlure au deuxième degré alors qu'elle faisait son métier.
Les street medics en ont marre de ce genre de scénario. Ils se réunissent donc à Montluçon, mais sans passer par le centre-ville. La préfecture refuse.
On a refait un tracé sans passer par le centre-ville et il a été accepté. Ça nous enlève un bon gros bout de notre parcours. Alors que là, la manifestation du 1er mai à Montluçon, l'accès au centre-ville a été autorisé.
1200 personnes ont d'ores et déjà prévenu de leur venue sur les réseaux sociaux. Mais tous les street medics ne seront pas là parce qu'aujourd'hui, c'est aussi un samedi de mobilisation de Gilets jaunes.
Effectivement, avec ce mot d'ordre aujourd'hui chez une partie des Gilets jaunes, revenir à la base du mouvement, reconquérir en fait Mathilde Dehimi les ronds-points.
Oui, un mot d'ordre déjà entendu ces dernières semaines. Certains groupes ont en effet essayé dès ce matin de se réinstaller. Peu nombreux, sous parfois une pluie battante. Pour les ronds-points les plus symboliques, cette installation sera compliquée. Le préfet de Seine-Maritime, par exemple, a interdit le périmètre autour du fameux rond-point des vaches. Pour les manifestations, certaines villes n'ont plus de mot d'ordre de rassemblement, comme à Rouen. D'autres ont maintenu les appels à la mobilisation. Mais il n'y a pas cette fois de manifestation nationale comme il y avait pu avoir dans le passé à Bourges ou à Paris. Les personnalités les plus populaires du mouvement sont à Chambéry pour certaines, à Roissy pour d'autres lors d'une brève et faible mobilisation contre la privatisation, ou encore à Paris, soit en colloque dans le 13e arrondissement, soit dans le principal cortège pour l'instant qui doit bientôt partir de l'hôpital Lariboisière vers différents hôpitaux de l'Est parisien. Nettement moins de monde pour l'instant que lors du 1er mai. La dispersion est prévue à Nation. Un groupe voulait se rendre dès ce matin sur les Champs-Élysées quartier qui reste entièrement bouclé par les forces de l'ordre sur un large périmètre. La préfecture de police de Paris a interdit également deux rassemblements à République. Rassemblement jusqu'alors autorisé l'après-midi, mais le nouveau préfet de Paris ne veut plus que la place devienne un lieu récurrent des Gilets jaunes après leur manifestation.
Merci Mathilde Dehigny pour toutes ces précisions des manifestations à Paris et en région. À suivre bien sûr avec nous dans les journaux de l'après-midi sur France Inter. À 3 semaines des élections européennes, on connaît maintenant le nombre de listes en compétition. Il y en aura 33. Ce chiffre est définitif. La date limite pour les déposer, c'était hier soir. 33, c'est un record, mais il fallait s'y attendre, Maxence Lambrec, au vu des règles fixées cette année par les autorités.
Le ministère de l'Intérieur n'a effectué aucun tri, aucune sélection. Et c'est ainsi que le théoricien du grand remplacement, Renaud Camus, et l'identitaire Vincent Vauquelin ont pu déposer des listes. Leurs idées racistes et xénophobes auront donc droit au chapitre, puisque pour être candidat aux européennes, il suffisait de réunir 79 électeurs français. Nul besoin de parrainage, de partis politiques et de budget. D'ailleurs, la moitié de ces 33 listes n'auront pas de quoi imprimer et diffuser affiches, professions de foi et bulletins de vote. Ils vous demandent d'imprimer vous-même vos bulletins le 26 mai. Cet éparpillement n'a rien d'anodin, il fait écho à une société complètement éclatée avec des tas de revendications communautaires et des partis politiques incapables de se rassembler. Il y a une dizaine de listes de gauche, 4 eurosceptiques, 3 gilets jaunes, des listes pour l'espéranto, le féminisme, la décroissance, les moins de 30 ans, les quartiers populaires, les animaux. Un vrai casse-tête désormais pour les médias qui vont devoir respecter le principe d'équité, même si une douzaine de listes seulement proposent un véritable projet européen. Les autres sont venus faire un tour de piste.
Et vous avez tout le détail de ces 33 listes à retrouver sur internet franceinter.fr. Jusqu'à 3000 postes bientôt supprimés chez Carrefour. La direction du géant de la grande distribution l'a annoncé au syndicat hier. Des suppressions dans le cadre d'un projet de rupture conventionnelle collective. Chez Air France, c'est un plan de départ volontaire qui pourrait viser le personnel au sol. On parle de plus de 400 postes. Les syndicats sont inquiets. La direction convoque le 13 mai prochain un comité social et économique central. Son nom ne vous dit peut-être rien aujourd'hui, mais Jean-François Ricard pourrait devenir le premier procureur national antiterroriste de France. C'est un conseiller à la Cour de cassation, il a 62 ans et c'est la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, qui a proposé son nom hier. Mais qui est-il? D'où vient-il? Eh bien c'est Jean-Philippe Degnaud qui nous fait ce midi son portrait.
Banditisme, grand banditisme, terrorisme, c'est la trajectoire de ce magistrat de 62 ans qui avait notamment instruit l'affaire de l'assassinat du pasteur Doucet dans les années 90, puis les attentats du RER en 95 ainsi que de nombreux dossiers du terrorisme islamique. Aujourd'hui, Jean-François Ricard doit mettre en musique ce nouveau parquet national antiterroriste avec une trentaine de procureurs également en charge des crimes contre l'humanité. Il coordonnera le traitement des centaines d'enquêtes et de procès à venir au tribunal correctionnel et à la cour d'assises spéciale de Paris. Il sera également en charge du suivi des détentions et de la surveillance des terroristes en fin de peine. Avec la création de ce PNAT, Jean-François Ricard, qui avait il y a 20 ans la réputation d'aimer travailler en solitaire, devra également rester coordonné avec les autres parquets de France, notamment sur les questions du financement, du terrorisme et des liens avec la petite délinquance. Et il devra prouver que son parquet national ne fabriquera pas une justice d'exception dans le traitement des dossiers terroristes.
Les précisions de Jean-Philippe Degnaud.
Le journal de 13h. Sur France Inter.
Il s'appelle Maha Vajira Longkorn et c'est le nouveau roi de Thaïlande. Son titre officiel, c'est plus facile à dire, Rama X. Il a 66 ans, il règne depuis 2 ans, mais il vient tout juste ce matin d'être couronné à Bangkok. Une cérémonie suivie sur place par Thibaut Cavaillès pour France Inter.
Coup de canon en début et en fin de cérémonie, tambour, fanfare. S'il a préféré passer une grande partie de sa vie de prince à l'étranger, c'est parce qu'il n'est pas vraiment un adepte des cérémonies officielles. Mais aujourd'hui, Rama X aura été servi, a passé la moitié de la journée avec une couronne de 7 kilos sur la tête, sorte de flèche, dans des tenues différentes et peu adaptées à la température accablante en ce moment sur Bangkok. Première journée de cérémonie dans l'enceinte du Palais Royal. Autour, ça n'est pas vraiment l'effervescence. Il est encore peu connu, Maha Vajira Longkorn, et s'est forgé qui plus est une réputation sulfureuse, bien loin de ce que fut son père. Mais pour autant, certains ont fait un long chemin, 8 heures de trajet pour Nitaya, professeur d'anglais dans le nord du pays.
It's far from here, 500 kilometers.
C'est à 500 kilomètres d'ici, nous dit-elle. Je suis venue en train, je suis arrivée hier.
My king is everything in Thailand.
Mon roi, c'est tout en Thaïlande, s'exclame-t-elle. Il est dans le cœur des Thaïlandais, il fait tout pour eux.
Thai people.
Mais aujourd'hui, Nitaya n'aura pas vu Ramadis. Le cortège est passé trop vite, le roi était à l'intérieur de la voiture. Toutefois,
tomorrow, I will come here again.
Elle reviendra demain, très tôt, dit-elle, pour être bien placée, demain.
Because I love my king.
Car le roi devrait circuler à bord de sa limousine pour saluer ses sujets autour du palais. Bangkok, Thibaut Cavaillès, France Inter.
Une pluie de roquettes sur Israël. Ce matin, une centaine tirées depuis la bande de Gaza. En représailles, une frappe israélienne a fait un mort, un Palestinien de 22 ans. La Corée du Nord, elle, a tiré plusieurs missiles en direction de la mer du Japon. Des missiles qui ont parcouru entre 70 et 200 kilomètres. La Corée du Sud indique suivre de près la situation. Même chose du côté de la Maison Blanche, qui demande à Pyongyang de reprendre rapidement le dialogue. Plusieurs milliers de personnes encore dans les rues hier de Tripoli, en Libye, nouveau rassemblement pour dénoncer le début de l'offensive militaire sur la capitale. C'était il y a un mois, jour pour jour, une offensive menée par le maréchal Khalifa Haftar. Le reportage sur place de notre envoyé spécial Omar Waman.
Tous les vendredis depuis un mois, Saba, une jeune maman, se rend sur cette place des martyrs en plein cœur de Tripoli pour dire sa colère. France, enlève tes mains. Ici, c'est la Libye, pas la France, c'est notre pays. Une colère dirigée notamment contre Paris, accusé de soutenir en sous-main le maréchal Haftar, une trahison pour Zahra, venue en famille. Nous, le peuple libyen, avons été très choqués d'apprendre que la France soutient ce terroriste d'Haftar. La position française est totalement hypocrite. Et c'est pourtant sur cette place des martyrs que les habitants de Tripoli avaient fêté il y a 8 ans la chute de Kadhafi avec l'aide de la France, aujourd'hui conspuée. Au début, dit cette femme, la France a agi en toute légitimité car elle voulait réconcilier les Libyens. En soutenant Haftar, elle s'est retournée contre nous. Et au milieu de la place, un homme distribue des gilets jaunes qui s'arrachent comme des petits pains. Mustapha, une quarantaine d'années. Les Français le portent pour protester contre la politique de leur pays. Eh bien moi aussi, c'est pour m'opposer à la France. Je suis contre son ingérence. Mais d'autres sont venus pour simplement rappeler que la solution ne peut être militaire, que la communauté internationale doit imposer un cessez-le-feu avant qu'il ne soit trop tard. Tripoli, Omar Waman, France Inter.
La Libye qui annonce aujourd'hui avoir intercepté jeudi dernier un peu plus de 160 migrants en mer Méditerranée. Des migrants qui dérivaient sur 2 bateaux pneumatiques à 150 km au large de la ville de Khoms. Pas de nouvelles et toujours très peu d'informations ce midi sur les 2 Français portés disparus au Bénin. 2 touristes partis avec leur guide dans le parc national de la Pendjari au nord du pays, tout près de la frontière avec le Burkina Faso. Les 3 hommes sont activement recherchés. Pour l'instant, la piste d'un enlèvement n'est pas évoquée. La ville de Metz, sous haute surveillance, elle accueille les ministres de l'Environnement des pays du G7 tout ce week-end jusqu'à lundi. En parallèle des réunions et des discussions officielles, un village éco-citoyen est installé depuis hier dans un parc de la ville, les jardins Jean-Marie Pelt. Vous y trouverez une centaine de stands gratuits, des stands que Clément Lhuillier est allé visiter pour nous.
Allongez-vous sur un transat, mettez une petite couverture et posez un casque sur vos oreilles. La sieste sonore avec les bruits de la nature, voilà l'une des expériences proposées sur ce village éco-citoyen où l'on peut aussi manger.
Je suis cuisinière et je cuisine pour vous vegan. Les tout chocolat, les cocos gingembre, flocons d'avoine, raisins secs, noisettes, pépites de chocolat, aucune protéine animale. Et bio, tous les matériaux sont bio.
Mais aussi jouer au basket déchets ou comment trier correctement ses ordures sur le stand de l'association étudiante Messine I3D. Loris Couiban en est la présidente. Qu'attend-elle de la réunion des grandes ce monde qui se tiendra à quelques mètres de là?
On espère toujours des choses concrètes. Maintenant, je pense qu'on est tous plutôt sceptiques quand même. C'est justement ce qu'on essaie de montrer avec ce village éco-citoyen. C'est un engagement concret, une initiative palpable. Mais surtout, c'est un moyen de montrer aux gens qu'on peut agir. Chacun à sa manière, chacun à un niveau individuel. Mais surtout, on peut le faire tous ensemble et c'est là que ça a du poids.
Des actes plus que des paroles, voilà le message que lancent aux dirigeants de la planète les participants à ce village écologique, hétéroclite et résolument militant.
Le reportage à Metz de Clément L'Huillier. Un cri du cœur qui ressemble un petit peu à celui qu'on vient d'entendre. Plus de vert dans nos villes trop grises. C'est le but, le défi d'une association, la SAUGE. C'est l'acronyme de Société d'agriculture urbaine généreuse et engagée. Une association qui lance ce week-end les 48 heures de l'agriculture urbaine. Des événements dans une quinzaine de villes en France et en Belgique. Pour en parler avec nous sur France Inter, le président de cette association. Bonjour Sven Dera.
Bonjour. Alors, comment allez-vous ?
Ça va très bien, et vous-même ? Comment ça se passe ? En quoi ça consiste précisément ces 48 heures de l'agriculture urbaine ? Ça veut dire quoi ?
Écoutez, l'idée de des 48 heures de l'agriculture urbaine, en fait, c'est de faire découvrir au grand public ce secteur, cette nouvelle façon de cultiver la ville qui s'appelle l'agriculture urbaine. Et c'est pour ça qu'on a créé ce grand événement citoyen qui, un peu à l'image de la fête de la musique, permet à tout le monde dans la rue avec ses graines, ses râteaux et de jardiner un bout de trottoir, de découvrir ce qui est en train de naître dans nos villes qui sont les fermes urbaines.
Et alors concrètement, donnez-nous un exemple des villes, des événements précis.
Alors oui, tout à fait. Alors c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je vous invite à aller éventuellement sur le site www.les48h.fr parce qu'il y a à peu près 580 événements pendant tout le week-end dans les 15 villes participantes à l'événement. Et pour n'en citer que quelques-uns, on a par exemple 15 rues qui sont en cours de végétalisation à Paris, avec un grand concert demain à la Prairie du Canal à Bobigny à partir de 15h. À Marseille par exemple, demain de 10h à 14h au parc Foresta et jusqu'à la ferme du Capricorne, il y aura une transhumance, donc avec des moutons qui vont circuler dans la ville. La même chose, on aura un grand événement rassembleur à la place du Hérite à Strasbourg dimanche de 10h30 à 20h. Ce sera également le cas dans la ferme urbaine d'Oasis Citadine à Montpellier, où on va pouvoir assister à des conférences, faire des chasses au trésor pour les enfants, participer à des ateliers de jardinage et de découverte de l'agriculture urbaine.
Et tout ça, comment ça se passe ? C'est gratuit, on se présente tout simplement et on peut participer à l'un de ces ateliers un peu partout en France là ce week-end ?
Oui, tout à fait. Il suffit effectivement de prendre les renseignements sur le site internet que j'ai cité tout à l'heure et se rendre sur les différents lieux des événements. Et bien sûr, plus on sera nombreux, plus on sera content pour participer à la végétalisation de nos villes et à la transition écologique.
Et comment ça vous est venu cette idée, votre association La SAUGE, à quel moment vous avez eu cette idée de revégétaliser, comme vous dites, nos villes ?
Ben, en fait, le constat, c'est que l'objectif de notre association, c'est qu'il y a un maximum de gens qui pratiquent une activité agricole. On se dit que c'est nécessaire qu'on se mette tous un petit peu à jardiner parce qu'il y a vraiment des savoir-faire qui sont indispensables à préserver dans notre société, qui ont été un petit peu perdus là ces dernières années, qu'on a vraiment envie de revigorer d'une manière ludique, fédératrice. Et c'est pour ça qu'un événement citoyen comme les 48 heures de l'agriculture urbaine était, ben, nous semble-t-il, une bonne réponse à ça.
Très bien, redonnez-nous le site www.48h.
Alors, www.les48h.fr.
Très bien, pour avoir tout le détail du programme de ce week-end pour ces 48 heures de l'agriculture urbaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur France Inter. Sven Deral, président de l'association La SAUGE. Les trottinettes électriques interdites sur les trottoirs de toute la France à partir du mois de septembre. C'était déjà le cas à Paris. Le gouvernement veut maintenant durcir les sanctions un peu partout. 135 euros d'amende si on roule sur le trottoir, mais aussi les écouteurs qui seront interdits à partir de la rentrée. Les freins et les feux, eux, seront obligatoires sur toutes les trottinettes qui circulent dans la ville. La route, justement, avec une journée classée orange par Bison Futé dans le Grand Est et en Île-de-France. C'est la fin des congés pour la zone C et pour la Corse. C'est la fin des vacances aussi pour les Pays-Bas. Ça veut dire qu'il va y avoir du monde en direction des frontières du nord de la France aujourd'hui. Pour l'instant, ça roule bien. Ça devrait commencer à coincer en fin de journée. Soyez prudents. La prescription culture de ce samedi sur France Inter avec un anniversaire, celui du petit Nicolas. Il fête cette année ses 60 ans. Alors pour l'occasion, un album collector vient de sortir. C'est un cahier de coloriage qui a été créé par Claire Feilly. Un cahier un peu particulier, cahier qui s'anime quand on le prend en photo, Jacqueline Pétrose.
C'est simple et ludique, le cahier est un vrai livre. Pour les histoires du petit Nicolas, il y a 16 dessins à colorier. Et puis, on prend une photo, Claire Feilly.
Une fois qu'on a colorié, on télécharge l'application gratuite Blinkbook. On prend en photo, on cale les coins sur les coins. Instantanément, ça s'anime.
Et ainsi, on mêle tradition et innovation.
On a un livre papier qu'on peut colorier. On va passer 4 heures à le colorier si on le fait bien. Et le dessin animé généré va durer 8 minutes. C'est un peu dans la ligne de la réalité augmentée. Mais ce qui nous intéressait en créant ce projet, c'est que l'enfant crée un dessin animé. Et puis ensuite, il n'est pas obligé de rester au-dessus du livre pour le regarder animé. Et il y a quelque chose de très gratifiant pour l'enfant avec la famille qui va regarder son dessin animé. Il y a son nom au générique de fin en tant que réalisateur. On voulait raconter des histoires avant tout.
Au programme pour octobre, Le Petit Prince, ses cahiers de dessins sont un succès. Les 10 titres disponibles ont déjà généré 4 millions de dessins animés, parmi les livres des contes et une balade dans l'atelier de Pablo Picasso, où l'enfant peut même s'insérer dans le dessin, comme un selfie avec le peintre.
Peintre ou musicien, chacun compose un rythme à sa manière, avec des couleurs ou avec des notes.
Le reportage de Jacqueline Pétrose. Les autres conseils culture de ce samedi, vous avez de la chance, il ne fait pas très beau, c'est un temps idéal pour aller au cinéma, pour découvrir par exemple la suite des Petits Mouchoirs. Ça s'appelle Nous finirons ensemble, 10 ans après le premier volet qui a été vu quand même par 5,5 millions de spectateurs. Guillaume Canet a réuni toute sa bande au Cap Ferret, Marion Cotillard, Gilles Lelouch, François Cluzet ou encore Laurent Lafitte. Et puis sinon, si vous préférez la musique, vous pouvez écouter le duo belge féminin Juicy, un duo qui fait partie de la tournée Europa Vox, une tournée qui visite 7 villes de France jusqu'à samedi prochain, le 11 mai. Le titre qu'on entend derrière ma voix, c'est Count Our Fingers Twice. Dans le cadre de cette tournée, vous retrouverez Juicy à Bordeaux le 7 mai prochain. Elles seront à Lyon également le 9. Voilà, le duo Juicy à retrouver dans la tournée Europa Vox. Un mot de sport avec du rugby, top 14, 24e journée. Aujourd'hui, plusieurs rencontres. Toulouse-Pau, ça commence à 14h45. Castres, Montpellier, Clermont, Perpignan et Grenoble, Agen à 18h. Et puis ce soir, 20h45, La Rochelle, Toulon. Du foot aussi avec la 35e journée de Ligue 1 à 17h. Le PSG affronte Nice et puis ce soir 20h, Bordeaux contre Angers, Guingamp contre Caen et Reims contre Nîmes. La météo ?
La météo avec Air France et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
La météo avec Jean-Michel Golinski.
Les pluies qui traversent le pays vers le sud vont s'échouer dans l'après-midi de la Nouvelle-Aquitaine aux Pyrénées et du Massif central à Rhône-Alpes, donnant de la neige à moyenne altitude. À l'arrière, du nord de la Loire au quart nord-est, c'est un régime de giboulée qui va dominer avec de l'orage, du grésil, de fortes bourrasques et parfois de la neige mêlée à la pluie jusqu'en plaine, notamment près de la Belgique et de l'Allemagne, et plus fréquemment à basse altitude sur les Vosges et les Ardennes. Le bassin méditerranéen va généralement conserver un temps sec, mais avec pas mal de vent et tout de même quelques averses possibles sur la Corse et les Alpes du Sud. Le tout dans des températures en forte baisse aujourd'hui dans la moitié nord. Et demain, cette fraîcheur va gagner vers le sud.